2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 14. 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 14. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je te le rappelle, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi, prisonnier pour lui. Au contraire, prends ta part de souffrance pour la bonne nouvelle selon la force que Dieu te donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple. Non à cause des œuvres que nous avons accomplies, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce en Jésus-Christ avant le commencement du temps, mais il nous l'a manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort et au moyen de la bonne nouvelle, il a révélé la vie immortelle. Dieu m'a chargé d'annoncer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant. Et c'est pour cela que je subis ces souffrances. Mais je demeure plein d'assurance car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je suis certain qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. Prends comme modèle les paroles véritables que je t'ai communiquées et tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Comme vous le voyez ici devant l'autel, aujourd'hui nous célébrons le dimanche de la récolte. Et l'esprit de cette fête, c'est d'apporter bien sûr une partie des fruits de nos jardins, de notre travail, des bienfaits que le Seigneur nous a donnés, symbolisant notre reconnaissance au Seigneur pour ses bénédictions et ses bienfaits pendant toute l'année. Et même, à vrai dire, même ces fruits de nos jardins viennent de la terre que Dieu a créée. L'homme ne fait que cultiver, garder ce que Dieu a donné. Mais la vie, le travail, la santé, l'argent, les enfants, les choses que nous croyons parfois même insignifiants, sont des dons. Et en parlant de dons, je me suis dit, je vais choisir la deuxième lecture proposée aujourd'hui par le lectionnaire. Il s'agit de notre rapport vis-à-vis des dons de l'esprit. Dans ce texte, Paul est à la fin de sa course. Il est devant sa destinée finale. Normalement, quelqu'un qui, à la fin de sa vie, il est en train de regarder dans son rétroviseur quel a été le parcours. Mais non, lui, il regarde l'avenir. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est toujours dans la continuité. C'est pas une fin, c'est une continuité. L'apôtre semble faire même un testament à son poulain ici, Timothée. Il fait une sorte de passation de fanion à Timothée. Dans un souci de continuité, c'est à toi de continuer, mon fils, la course. Et notre lectionnaire commence au verset 6, mais avant ce verset, Paul a mentionné, et j'aime bien, pour une fois, Paul raconte un peu la vie de famille. Paul a mentionné le nom de la grand-mère de Timothée, Loïs, et la mère de Timothée, Eunice. Ces deux qui ont joué un rôle capital dans la vie spirituelle de Timothée. Et Paul, lui, il est humble. C'est pas lui qui a rendu Timothée ainsi. C'est le fruit du travail de Eunice et de Loïs. Paul n'a fait que continuer ce que les deux générations précédentes ont fait. Alors, le vrai travail a été fait dans le cercle familial. Mais pas dans l'Église, puisque lors du premier voyage de Paul, c'est là qu'il l'avait remarqué Timothée. Il a dit, mais c'est qui ce jeune homme? Il était si différent des gens. Et d'ailleurs, se faire remarquer par Paul, c'est déjà quelque chose. Pour Paul, Timothée était vraiment un don du Seigneur. Un don pour son ministère, car, savez-vous, la plupart de ses disciples, à la fin de sa course, l'ont abandonné. Tout le monde a abandonné Paul. Et c'est pour cette raison que Paul met en garde son fils spirituel, le dernier qui restait, de ne pas avoir un esprit de lâcheté, il l'a bien dit. En d'autres termes, les dons que Timothée a reçus l'obligent à prendre ses responsabilités, vu que l'avenir de Paul est incertain. Dans l'Église, la première de toutes les richesses, ce ne sont pas les nourritures, l'argent, les bâtiments, les patrimoines de l'Église. La vraie richesse, c'est l'homme. Une vraie richesse, c'est celui qui s'engage pour Dieu. Parce que même Paul, lui, il exhorte, où il rappelle à toute occasion à Timothée de ranimer la flamme, dans d'autres versions, d'attiser cette flamme du don de la grâce que Dieu lui a donné. Il ne suffit pas de se réjouir d'avoir de bons éléments dans l'Église qui ont des capacités extraordinaires. Il faut toujours une personne, et c'est le rôle des prédicateurs, ou des pasteurs, ou des évangélistes, peu importe le titre qu'ils ont, des personnes de rappeler que tu as reçu un don de Dieu. Il faut toujours une personne comme Paul qui exhorte, qui rappelle aux gens d'attiser cette flamme, parce que parfois cette flamme, elle a tendance à s'éteindre tout doucement. Et même si les dons sont là, mais pas utilisés, à quoi servirait-il? Et c'est souvent le cas. On se casse la tête pour trouver quelles sont les solutions pour, dans les églises, pour la redynamisation des églises. Pourtant, le Seigneur nous a déjà tout donné, comme si on demande à Dieu qui n'a encore rien fait. Tout a été donné en nous. Mais le grand problème, ils oublient toujours de ranimer. On a besoin de ranimer la flamme. Toujours. Nous, aujourd'hui, on a l'habitude juste d'appuyer sur un bouton pour faire cuire quelque chose. Mais on se rappelle tous à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique, comment on fait pour ranimer la flamme. Il faut toujours souffler, souffler. Parfois même, on pleure. Mais on a besoin de ça pour que le feu puisse prendre de l'ampleur. Alors, je me suis dit, quel serait l'obstacle principal alors qui empêche les gens à s'engager pour Dieu? Pourquoi cette tiédeur? Parfois même on se dit, est-ce que tu es un vrai chrétien? Est-ce que tu es un sympathisant du Christ ou est-ce que tu es un militant du Christ? Normalement, ça ne devrait pas exister, les sympathisants du Christ. Soit tu lui appartiens, soit tu es en dehors. Il n'y a pas le juste milieu. Et en réponse, en lisant entre les lignes de ces textes, Paul exhorte Timothée à ne pas être intimidé. Ça, c'est l'une des problèmes. Intimidé face à quoi? Face à la souffrance que Paul subit sur ce qui va passer encore à la fin de la vie de Paul. Et il est témoin des sacrifices de son père spirituel, de quoi ce Paul a souffert. Et ça pourrait décourager le fils spirituel. Moi aussi, est-ce que je devrais vivre ça? En voyant ce que Paul en a souffert? Savez-vous, souvent, les pasteurs, à la fin de leur parcours professionnel, on va dire entre guillemets, certains pasteurs disent même, je ne veux pas que mon fils revive ce que moi j'ai vécu dans mon ministère. Non seulement en parlant des problèmes matériels, financiers, mais les souffrances spirituelles, c'est lourd. J'ai connu un pasteur, un ancien, il a dit, tu sais mon fils, il m'appelait un fils, mon fils, deux tiers de ma vie pastorale, je l'ai passé en larmes. Et quand tu entends ça, est-ce que je vais continuer? Si lui, moi je suis rien devant lui. Mais c'est ça que Paul a dit, ne sois pas intimidé à cela. À Timothée. À cause ou grâce à l'évangile, Paul a vécu toutes sortes de persécutions. Alors il se peut que Timothée pourrait avoir une crainte ou une peur de représailles, ce qui est normal, compréhensible. D'où Paul fait cette exhortation. Oui, Paul est bien conscient de la gravité de la situation. Il ne sous-estime pas l'ampleur du danger et le découragement qui pourrait guetter le pasteur Timothée. N'oubliez pas, Timothée était un pasteur. La seule chose qui pourrait contrebalancer cette dure réalité, c'est attiser la passion ou la flamme de la vocation. Si tu n'es pas passionné de ce ministère, tu abandonneras rien qu'en une année. J'avais suivi une formation en radio à l'époque, avant de me lancer dans l'émission radio évangélique. Le formateur nous a dit, si tu n'es pas appelé pour ça, si tu n'as pas la passion pour ça, je t'assure, en un mois, tu détesteras de regarder le micro. Parce qu'il y a une préparation à faire. Il y a de la rigueur, de discipline. Tu dois te lever à une heure impossible. Tu te couches très tard pour faire des préparations. Tu diras, mais qu'est-ce qui m'oblige à faire ça? Si ce n'est pas la passion, tu l'abandonnes, tu vas t'abandonner. Et c'est vrai. Plusieurs fois, j'ai failli arrêter. J'ai eu une émission que j'ai fait depuis 10 ans, depuis au pays jusqu'aujourd'hui. Un jour, je voulais arrêter. J'ai dit, Seigneur, c'est impossible, c'est au-dessus de ma force. Et au moment même où j'allais arrêter, une de mes auditrices m'a envoyé un mail qui venait de Haïti, une malgache, diaspora. Elle m'a dit, là où je suis, j'ai aucun moyen d'aller dans une église. C'est le seul moyen d'entendre la parole de Dieu. Tenez bon. Pourtant, elle ne sait pas que j'étais au moment de dire stop. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Vous voyez, si tu ne brûles pas de la passion de l'évangile, dit Paul à Timothée, tu ne persévéreras pas dans cette mission, dans cette tâche. Tout compte fait, ce n'est qu'une excuse lorsque nous disons « je n'ai pas de don ». Souvent on dit « mais je n'ai pas de don pour ça ». C'est une fausse excuse. C'est faux, puisque quand tu as été baptisé, nous avons reçu 3 choses très importantes. La première, qui est la base des 3, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous a effectué l'acte d'adoption pour être des co-héritiers du Christ. Quand tu es baptisé, tu es héritier du trône, tu as tout. Comment oses-tu dire que tu n'as pas reçu le don? Et de là découle immédiatement, dès le jour de ton baptême, ta vocation. Celui qui est baptisé reçoit tout de suite, immédiatement, sa vocation. Et quand Dieu nous appelle pour aller en mission, il nous donne les moyens de le faire. Ce n'est pas à nous de chercher les moyens, c'est lui qui les a donnés, les dons spirituels que Paul cite dans 1 Corinthiens 12. Et il le donne gratuitement. Alors soyons-en sûrs, Dieu a déjà tout donné. Car ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas fournir les moyens, de ne pas fournir les moyens nécessaires pour accomplir les tâches qu'il nous confie. Regardez le texte dans les récits de la création. S'il a donné à l'homme de cultiver et de garder le jardin, c'est parce que tout y était. L'homme n'a rien fait. Et que son existence, ici-bas, est lié avec ce Dieu qui a tout créé. Alors Paul pointe du doigt que l'obstacle qui ne nous fait pas avancer, c'est la peur. Alors parlons-en un peu de cette peur. Si nous tenons compte de ce que Paul dit dans ce texte, il parle de la peur de souffrir. Surtout aujourd'hui, on fait tout pour que les gens ne souffrent plus. On a peur de souffrir. Et cela peut toucher dans tous les domaines. Ce n'est pas simplement la souffrance physique, mais si nous analysons la vie de Paul, sa vie a été traversée que par des peurs. Mais soyons-en sûrs, la peur que Paul avait, c'est la crainte, surtout de préserver l'Église de Jésus-Christ, pour ne pas tomber dans des dérives hérétiques, par exemple. La peur ou le souci pour l'avenir de l'Église, ou en d'autres termes, ce ne sont pas des peurs en lien avec sa personne et ses propres intérêts. Mais malgré cela, Paul dit clairement que cela vaut la peine de le vivre, cette peur. Le ministère, chers frères et sœurs, est Christ, en Christ. Le service devrait devenir une cause. Et cette expression revient deux fois dans notre texte, au verset 6 et au verset 12. Et c'est impressionnant la façon dont Paul transforme cette peur en cause. Cette peur est la cause, cette peur est la motivation qui le pousse à encore faire mieux qu'avant. Donc la peur n'est plus un obstacle, la peur devient même une motivation, un catalyseur. Mais cela est insensé dans le monde où nous vivons. Lorsqu'on parle de motivation, surtout, c'est parce qu'il y a toujours un intérêt quelque part, non? Si tu es motivé pour ce poste, si tu es motivé pour cet engagement, tu dis « qu'est-ce que je gagne ?» N'est-ce pas? « Qu'est-ce que je gagne avec ça ?» C'est l'éducation du monde. Mais ici, c'est le contraire. C'est la peur qui nous pousse même à avancer. C'est la peur, la peine de ne pas laisser tomber l'Église de Jésus-Christ qui devient ton leitmotiv. Et à cet instant-là, cette peur se transforme en ce que je dis ici, en une peur positive. Et Paul le dit dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. » Vous voyez, même l'envie de faire la chose ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Et même si nous sommes super motivés à aller utiliser les dons, où ça pourrait être nous-mêmes pour les œuvres du Seigneur, il ne faudrait pas aussi tomber dans un excès de zèle, chers frères et sœurs, mais toujours rester dans une humilité totale. Et la raison de cela est bien dit au verset 13, c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire pour son plaisir. Ce vouloir ne vient même pas de nous, c'est Dieu qui a planté cette passion. D'où vient cette passion, cette flamme qui brûle pour Dieu? Ça vient de Dieu. Ce n'est pas un caractère, ce n'est pas un tempérament psychologique, c'est un don de l'Esprit. Alors ce matin, on va demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi cette passion de te servir. » Il en est de même dans l'accomplissement des tâches différentes qu'il a mises dans nos cœurs, car ce sont les dons que lui nous a donnés qui nous a permis de réaliser tout cela dans notre habileté ou nos connaissances. Et il en rajoute même une couche pour son plaisir et non pour une quelconque autosatisfaction. Ça aussi, parfois on est tout de suite tombé dans cette autosatisfaction. Je suis satisfait de ce que moi j'ai réalisé. C'est un péché. Parce que c'est déjà le seuil de la porte de l'orgueil. Mais si tu as fait ça, c'est pour son plaisir, mais pas pour ton plaisir. Et si nous cherchons la reconnaissance, c'est toujours ça qu'on veut, non? La reconnaissance de la communauté, l'appréciation des gens dans nos vocations. Ah, si tu attends que ça, nous serons déçus, car il n'y en aura pas. Je vous l'assure, presque pas, pour ne pas dire pas du tout. Ce n'est pas ça notre motivation. Et or, en tant qu'être humain, nous avons besoin de la reconnaissance, l'estime de l'autre. Mais Paul, à la fin de sa course, il était seul. Après tout ce qu'il a fait pour l'Église, il était seul. Et si Paul avait attendu la reconnaissance de la part de l'Église, où il avait tant donné son temps, son argent, sa force, sa passion, il aurait déjà pu longtemps jeter l'éponge et dire « ça suffit, j'en peux plus ». Mais là, beaucoup lui ont tourné le dos, et c'est malheureux et c'est triste. Mais toutefois, vous entendez ce cri de Paul qui dit « je n'ai pas honte, car je sais bien en qui j'ai placé ma foi ». Voilà. J'ai pas honte, même si je suis seul. En d'autres mots, comme disait Edith Piaf, je ne regrette rien. Même si j'ai tout abandonné pour le Christ, et en retour, je me sens seul, je ne regrette rien. Voilà la maturité spirituelle, chers frères et sœurs. Si tu sers le Seigneur parce que tu espères une bénédiction, c'est une foi enfantine. Si tu espères la reconnaissance des autres, c'est une foi encore qu'il faut mûrir, mais sois comme Paul, J'ai pas honte en qui j'ai placé ma confiance.